Vera Molnar, tout comme François Morellet qui se trouve juste à côté, sont des artistes qui, dans les années 50-60, ont abordé l'abstraction, comme Yann Ojvert, un peu plus loin, mais d'une manière différente, avec la volonté justement de s'affranchir d'un rapport au réel et d'une obligation descriptive à travers la peinture. Mmh. Et pour eux, l'abstraction, c'était du coup le gage d'une grande liberté. Mmh. Et pour ne pas habiter leurs propos d'une surcharge où le sujet est trop présent, la nécessité comme ça de s'exprimer, une recherche psychologisante un peu du geste artistique, ils ont utilisé le langage mathématique.
Ouais.
Et donc, l'œuvre qui est ici derrière relève de ce principe-là, la structuration de l'œuvre de Morellet aussi. Et Vera Molnar, toutes ces mises en œuvre répondent à des protocoles quasi mathématiques. Le langage mathématique est un langage qui, justement, n'est pas psychologique. Il n'y a pas un sujet derrière qui vient porter dessus une sorte d'affect ou de rapport à l'inconscient, enfin bref, toute cette surcharge mm-hmm. un peu d'humanité qui parfois peut être un peu encombrante.
Pas de pathos, quoi.
Pas de pathos, mais pour autant, à certains moments, il y a cette liberté aussi à réinscrire finalement un cheminement, un protocole mathématique. Car vous voyez, c'est une forme très simple, c'est un cadre en papier qu'elle peint, mm-hmm. qui est creux, il y a simplement le cadre, il n'y a rien au milieu, rien sur les bords, une bande comme ça, colorée, rouge, forme un cadre, qu'elle va ensuite plier sous des livres, laisser à plat, et va générer une forme un peu aléatoire, sans précision.
D'accord.
Alors je dis un peu aléatoire parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe chez Vera, elle va plier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis recommencer, etc. Et générer un peu dans le rapport à l'origami des formes. Et ensuite, ces formes, elle va être, ce côté protocolaire et aléatoire va créer une forme qu'elle va ensuite produire dans un rapport à la peinture, de la plat, sur toile, sur châssis, etc. Ici, il s'agit de quatre toiles qui permettent de saisir l'ensemble de la forme. Et après, ces quatre toiles, selon la manière dont on va les composer, va elles-mêmes générer des formes différentes. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé entre Carré des Voyers et Montagne-Sainte-Victoire, c'est qu'à un moment, dans le redéploiement de ces formes, lui est apparu ce rapport au paysage, cette forme, cette idée de la montagne de Sainte-Victoire qui lui a plu. Et donc là, on est en effet dans une dimension subjective, mais très relative. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre aussi toute la nécessité, l'incapacité pour Anna Eva Bergman de s'affranchir du réel et du paysage dans son abstraction. Mm-hmm. Mais de deux manières différentes. Et c'est aussi ça, le temps pris à regarder l'œuvre contemporaine, c'est aussi comprendre derrière les principes artistiques cette dimension subjective et voir quel est son périmètre. Donc cette exposition porte aussi ses indications. Pour certains visiteurs, cette dimension humaine de l'artiste peignant ou du sujet peint d'ailleurs, les deux sont intéressants à analyser, sont nécessaires. S'il n'y a pas cette relation-là, pour eux, l'œuvre n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de charge affective, elle n'a pas de charge existentielle, entre guillemets, et donc elle n'est pas porteuse d'un intérêt particulier. Pour d'autres regardeurs, au contraire, cet aspect-là peut être un peu encombrant, un peu gênant. L'histoire des formes ne prétend pas répondre à cette question, mais elle l'intègre dans la sélection des œuvres qui sont présentées, de la même manière que le rapport au geste est très différencié chez chacun de ces artistes qui, s'ils ont tous la nécessité de saisir, de peindre ou de faire émerger sur le support la forme, le font de manière différente. Pour certains, on y voit vraiment la trace du geste, l'occupation, le déroulement de la présence. Tout à l'heure, je vous ai parlé devant l'œuvre d'Anna Eva Bergman. On voit les traces de couteau, on voit le sujet peignant. Enfin, on l'imagine même en train de le faire pour les grandes œuvres sur papier de Yann Ojberg, entre des œuvres des années 80 et des œuvres plus récentes des années 2000, on voit que son rapport du geste a changé, a évolué, et que c'est plus la même chose.
Donc, il y a combien d'œuvres à peu près là dans cette
Il va y avoir, je crois, 88 œuvres.
88 œuvres.
Présentées dans l'exposition.
Donc, c'est vous qui êtes commissaire, donc c'est vous qui les avez toutes choisies.
Tout à fait.
Et une question peut-être bête ou naïve, mais enfin, c'est intéressant de savoir, combien on met de temps à choisir. Combien en même temps à se dire je vais mettre ça, enfin dans un espace
pareil. Ça va dépendre des commissaires, ça va dépendre voilà, de la réalité de la mise en œuvre. Là,
mais pour vous, par exemple,
là, c'est un travail de 6-8 mois sur, sur ce qui serait une première idée de l'exposition. Et puis, ce qui est surtout important, c'est entre l'intention et puis ensuite la rencontre des artistes, aller dans leurs ateliers. Voir qu'entre l'identification de ce qui était une œuvre qu'on imaginait dans l'exposition, de découvrir un travail en cours qui vient à la fois confirmer mais rebondir sur l'intention première, les discours, les échanges, la manière dont les artistes se saisissent aussi de la... J'ai rédigé une lettre d'intention sur l'exposition, donc c'est cet élément discursif qui leur permettait d'apprécier ce qu'allait être ou pouvait être l'histoire des formes. Dans les échanges, ça a aussi influé sur le choix. Mm-hmm. Et donc, la sélection initiale était plus resserrée, elle s'est développée. Cette question-là, oui, elle est importante. Installer 90 œuvres dans un lieu comme ça, c'est aussi un gros travail de régie, c'est un gros travail de transport,
ouais,
de préparation. L'exposition Forme d'histoire sera une exposition qui, elle, sera probablement positionnée dans un rapport aussi à la densité, mais dans une approche beaucoup plus baroque, féerique, avec voilà, on sera le contre-pied de cette exposition. Moi, je suis pour mettre en évidence la nécessité de la pluralité, de la diversité, du rapport à l'altérité pour construire le regard sur l'œuvre. Si on n'a pas cette curiosité-là, on ne voit pas bien les choses, mais on voit toujours la même chose, et du coup, on s'épuise dans cette relation-là. Donc, histoire des formes et formes d'histoire vont constituer les deux volets de cette approche-là et vont donner à percevoir et à comprendre quelle sera la réalité de ces niveaux de visibilité qu'offriront un lieu comme celui des tanneries.